très bon dimanche à l'écoute de France Inter, il est 13h. Le journal Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. Face à la menace des variants sud-africains et britanniques, l'Europe va autoriser plus rapidement les vaccins et réduire les procédures d'autorisation. Quelle stratégie vaccinale pour la France face aux variants? Tous les vaccins sont-ils adaptés? Philippe Amouyel, épidémiologiste, estime qu'il faut continuer à utiliser tous les vaccins à disposition. Les vacances scolaires viennent de débuter pour la zone C et comme pour la zone A la semaine dernière, il y a un effet côte ouest au détriment de la montagne. Invité de ce journal, Vincent Roland, député de Savoie. Dans ce journal également, la ville d'Auckland, reconfinée en Nouvelle-Zélande, le tunnel sous la Manche, qui pourrait bien être reproduit en mer d'Irlande, du rugby avec la rencontre Irlande-France cet après-midi. Et enfin, bonne Saint-Valentin sous couvre-feu. La météo froide avec un début de redoux. 13 départements restent en vigilance orange grand froid. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
La stratégie vaccinale de la France confrontée à la progression massive des variants, avec un département en particulier, la Moselle, au centre de toutes les attentions. Le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale et son président Alain Fischer proposent une nouvelle stratégie face aux variants sud-africains qui flambent en Moselle. Il faut, selon Alain Fischer, dans une information rapportée ce matin par le journal du dimanche, vacciner tous les professionnels de santé de ce département avec des vaccins ARN comme le vaccin Pfizer-BioNTech, qui a l'avantage de procurer une immunité plus rapide. Alain Fischer propose de laisser de côté pour l'instant le vaccin d'AstraZeneca, qui a enregistré des revers et qui, selon des études encore incomplètes, n'aurait pas une efficacité suffisante face aux variants. Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille, estime que les variants montrent le début d'un changement de phase dans l'épidémie, mais selon lui, il ne faut pas abandonner le vaccin AstraZeneca, ni aucun autre vaccin. Philippe Amouyel.
Il ne faut pas abandonner ce vaccin parce qu'il est quand même important pour diminuer les formes graves. En ce qui concerne la transmission, pour beaucoup de vaccins, on ne sait pas si ça réduit réellement la transmission entre les individus une fois que les populations sont vaccinées. Cela repose sur une étude qui a été faite en Afrique du Sud. Il faut attendre d'autres résultats. Et enfin, ce qu'il faut voir, c'est que on va avoir d'autres vaccins qui vont arriver sur le marché. Il va falloir probablement modifier légèrement certains des vaccins déjà actuellement présents. Donc c'est toute cette stratégie et aucun des vaccins ne doit être éliminé a priori comme ça sur ses impressions. Il faut des éléments forts et aujourd'hui, à mon sens, compte tenu de la progression de l'épidémie, il vaut mieux vacciner pour se protéger des formes graves que attendre un hypothétique nouveau vaccin.
Philippe Amouyel avec Ersin Lebovic et puis donc l'Union européenne qui va autoriser plus rapidement les vaccins contre les variants. Bruxelles, accusée de lenteur dans la gestion de la pandémie, a annoncé ce matin que les procédures d'autorisation des vaccins vont s'accélérer. Et dans ce contexte d'épidémie et de couvre-feu toujours bien lourd et angoissant et cette progression massive des variants, beaucoup de Français aimeraient pouvoir profiter des vacances scolaires pour changer d'air. 91% des Français disent vouloir partir en vacances, mais selon un sondage au Doxa pour France Info, seuls 10% des Français vont partir. Il y a, pour ces vacances de février, un effet côte ouest au détriment de la montagne. Tristan Duval, le maire de Cabourg avec Jules Dequisse.
Ce qu'on constate, c'est un report des gens des sports d'hiver qui viennent dans les maisons de famille, qui réouvrent, alors que celles-ci sont traditionnellement fermées à cette période de l'année. Donc on retrouve des comportements de destination de famille, de maisons de famille qui sont réouvertes parce qu'ils ne peuvent pas profiter du ski. C'est l'occasion de se retrouver en famille dans un autre moment. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de services à proposer, que la plupart des infrastructures sont fermées, la piscine est fermée, les courts couverts de tennis sont fermés. Donc c'est vrai que ça reste des vacances en demi-teinte. Nous sommes des villes touristiques et il faut qu'on puisse désormais avoir une visibilité sur ce qui va être mis en place et comment on va appréhender Pâques et les grandes vacances. Parce que ce que l'on a vu l'été dernier, c'est que on a un report massif de tous les gens qui ne partiront pas à l'étranger. Et il faut qu'on adapte à la fois notre offre, à la fois la gestion sanitaire, à la fois pour les commerçants. Ça prend du temps.
Tristan Duval, le maire de Cabourg. Alors voilà pour le littoral et l'ouest. La situation est bien sûr totalement différente en montagne et dramatique pour le tourisme. Invité de ce journal, Vincent Roland, député Les Républicains de Savoie. Bonjour Vincent Roland.
Bonjour.
Alors vous vous trouvez à Beauzelle en Savoie, c'est tout à côté de Courchevel. Vincent Roland, en raison des restrictions sanitaires et de la baisse de fréquentation des stations de ski, la montagne est en crise, une crise majeure. Et dans ce triste constat, il y a une situation particulière, la situation des saisonniers. Dans certaines stations, 90% des saisonniers n'ont pas de travail aujourd'hui. Est-ce que ce pourcentage vous surprend ?
Il ne me surprend pas, alors il est variable évidemment d'une station à l'autre, mais dès lors que l'activité économique est fortement réduite du fait de l'absence de pouvoir faire du ski alpin, évidemment les employeurs n'ont pas recruté comme ils l'ont fait habituellement sur les saisons précédentes.
Alors Elisabeth Borne leur a demandé aux employeurs, la ministre du Travail, recruter, embaucher les saisonniers, quitte à les placer dans la foulée en chômage partiel. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela a été fait en Savoie ?
Cela a été fait, mais c'est aussi en attente de plus de précisions de la part du ministère du Travail et surtout des engagements plus fermes, plus rapides et plus définitifs que ça n'est le cas aujourd'hui. Bon nombre d'employeurs aujourd'hui ont embauché leurs salariés, un petit peu comme si la saison allait se faire, en attendant qu'elle se fasse, mais les aides tardent à venir, les congés payés ne sont pas pris en charge au moment où on se parle par l'État, même s'il y a une promesse enfin il y a encore des ajustements qui font qu'il y a une certaine frilosité de la part des employeurs, que l'on peut comprendre puisqu'ils ont déjà une activité économique fortement dégradé. Certains, malgré une absence importante de vacanciers, font l'effort d'ouvrir pour accueillir ceux et celles qui ont choisi de nous rejoindre. Néanmoins, il faut vraiment qu'il y ait une aide puissante, massive de l'État, rapide, pour qu'ils puissent embaucher comme le demande la ministre.
Alors Vincent Roland, pour bien comprendre les énormes difficultés auxquelles le secteur de la montagne est confronté, un mois d'activité en montagne, le mois de février, c'est une partie très importante du chiffre d'affaires. Ça correspond à quoi ?
Ah, elle est très importante puisque février, c'est à peu près 40% du chiffre d'affaires total de l'année quasiment, puisque nous sommes ouverts de décembre à avril. Donc on voit bien en gros que un mois d'activité au sport d'hiver, c'est comme 3 mois dans un milieu ordinaire. D'où la nécessité aussi d'être traité par l'État d'une manière particulière. Nous sommes très mécontents de la non-ouverture des remontées mécaniques parce que je rappelle que dans nos pays voisins, à quelques kilomètres de moi, ici en Italie, demain, les remontées ouvrent. C'est le cas en Suisse, c'est le cas également en Autriche et que nous aurons été pénalisés vraisemblablement sur toute la saison. Maintenant, il faut adapter les dispositifs. Je reconnais que le gouvernement, sur le plan des aides, a commencé à nous entendre. Il faut désormais, comme on dit, boucher les trous dans la raquette parce qu'encore des professionnels se trouvent en dehors des dispositifs d'aide et ils n'auront pas travaillé, imaginez-vous bien, depuis le 15 mars 2020. Et au mieux, on nous dit qu'ils pourront retravailler pour le mois de décembre 2021. Donc c'est presque 2 ans d'inactivité malgré eux, d'où cette situation économique très préoccupante.
Alors justement, Vincent Roland, vous aviez signé récemment avec d'autres élus une tribune intitulée « Ne tuez pas la montagne ». Vous vous éleviez contre les décisions du gouvernement et notamment la fermeture des remontées mécaniques en expliquant que les décisions sont prises sur des préjugés et pas sur la réalité des stations de ski.
Oui, parce que l'État craignait qu'à la fin des journées de ski, il y ait des grands rassemblements. Moi, je le redis encore à nos décideurs, une fois la journée de ski terminée, si vous n'avez ni bar, ni restaurant, ni discothèque, vous rentrez dans votre appartement ou votre chalet avec les personnes avec lesquelles vous êtes venu, et rien d'autre. Donc ces brassages de population, quand on voit ce qu'ils sont aussi dans les transports en commun d'une manière générale, c'est tout autre chez nous. Et très franchement, il y avait eu des protocoles sanitaires élaborés entre les socioprofessionnels et l'État pour justement prévenir toute diffusion de l'épidémie. Nous étions fin prêts et je trouve que les décisions de non-ouverture des remontées mécaniques sont des décisions graves, pas assez consultée est lourde de conséquences.
Alors, Vincent Roland, justement, je disais que Bozelle, où vous êtes, est tout à côté de Courchevel. Je l'ai signalé parce que la station de Courchevel est dans le viseur des écologistes. Elle a donné accès ces derniers jours à certaines pistes aux voitures pour contourner justement cette fermeture des remontées mécaniques. Ça entraîne des bouchons, ça entraîne de la pollution. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Roland ?
Moi, je suis très clairement plus favorable au transport par câble, c'est-à-dire par remontée mécanique, que par véhicule terrestre et notamment thermique. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si dans nos territoires, nous avons beaucoup de projets d'ascenseurs valéens pour conserver les véhicules en bas des vallées et pouvoir accéder aux stations avec des télécabines, avec des transports propres qui, je le rappelle, utilisent l'hydroélectricité locale qui est... sans doute une des moins carbonées qui existe dans le monde.
Merci beaucoup Vincent Roland, député de Savoie, merci à vous. Et puis en Nouvelle-Zélande, toujours sur ce même sujet de la pandémie, la décision n'a pas traîné ce matin. 3 cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés, les premiers depuis le mois de janvier. Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande, a ordonné le confinement immédiat d'Auckland pour 3 jours. Près de 2 millions d'habitants tenus de rester chez eux. Sandy Dauphin.
Restez dans votre bulle, message adressé aux habitants d'Auckland par la première ministre néo-zélandaise. Confiner toute une ville pour quelques cas de Covid, la plus grande ville du pays a déjà connu cela l'été dernier. Depuis le début de la pandémie, la Nouvelle-Zélande a mis en place des mesures très strictes, contrôle aux frontières, long confinement en mars dernier, dépistage massif. Mircea Sofonea, maître de conférence en épidémiologie à l'Université de Montpellier.
C'est une stratégie de suppression, c'est-à-dire éviter que le virus circule tout simplement sur son territoire. C'est éviter même que l'épidémie ne démarre. Contrairement à la France, qui a une stratégie d'endiguement qui consiste à dire quelque part de vivre avec le virus en évitant seulement la surmortalité hospitalière.
Autre ingrédient, l'adhésion de la population, fermeté et empathie sont les marques de fabrique de Jacinda Ardern.
Je demande aux Néo-Zélandais de rester forts et gentils. Je sais qu'on a tous ce sentiment de « oh non, ça recommence ». Souvenez-vous qu'on a déjà connu ça. Ça veut dire qu'on sait s'en sortir, et ça, c'est ensemble.
Stratégie payante, depuis le début de la pandémie, la Nouvelle-Zélande compte moins de 2000 cas Covid et 25 morts.
Sandy Dauphin, au Japon, plus d'une centaine de personnes ont été blessées lors du séisme hier au large de Fukushima. Un tremblement de terre très puissant d'une magnitude de 7,3 dans la même zone que le séisme survenu il y a 10 ans. Les Japonais traumatisés ont cru revivre le cauchemar. Il s'agissait d'une réplique du séisme de 2011. Tokyo, Karin Ishimura.
Les sismologues avaient prévenu, il fallait s'attendre à subir pendant des dizaines d'années les secousses liées au séisme de magnitude 9 du 11 mars 2011, à l'origine d'un tsunami meurtrier. On en a eu l'illustration ce samedi soir, comme l'explique une experte de l'Agence de météo nationale.
Le séisme de ce samedi est une réplique de celui de mars 2011. L'activité sismique découlant du tremblement de terre majeur survenu dans cette région il y a 10 ans tend certes à diminuer graduellement, mais le nombre de séismes subséquents enregistrés chaque année demeure plus important qu'avant mars 2011.
Ce séisme de samedi a lui-même déjà été suivi de nombreuses autres secousses.
Les exemples du passé ont montré que quand un nouveau séisme de grande ampleur se produit, le risque de secousse aussi forte est de l'ordre de 10 à 20% dans la semaine suivante. Il faut donc faire attention.
Avec des bâtiments et sols déjà fragilisés, les autorités sont sur le qui-vive. Tokyo, Karin Nishimura pour France Inter.
La mobilisation pro-Navalny en Russie pour éviter les arrestations de masse. Les partisans d'Alexei Navalny appellent ce soir à un flash mob, une mobilisation éclair. Les autorités russes ont interdit tout rassemblement, mais les manifestants sont déterminés. Ils ont inventé une contestation toute particulière pour la Saint-Valentin. Léo Vidal-Giro à Moscou.
Quelques minutes, sans police, sans arrestation, sans danger. Après les manifestations brutalement réprimées de ces dernières semaines, les partisans d'Alexei Navalny ont décidé de changer de mode d'action. Pour la Saint-Valentin, ils ont imaginé une démonstration inspirée par le cœur que Navalny avait mimé à sa femme Yulia au moment de sa condamnation à 2 ans et 8 mois de prison ferme. Le 14 février à 20h, ils invitent tous les Russes à descendre dans la cour de leur immeuble, à allumer la lampe torche de leur smartphone et à le brandir en l'air quelques minutes en formant un cœur. puis à partager la photo sur les réseaux sociaux. L'opération a été baptisée « L'amour est plus fort que la peur », sauf que la peur sera quand même bien présente. À peine l'annonce rendue publique, les autorités russes ont tout fait pour décourager les éventuels participants. Le parquet a déclaré l'opération illégale, et le FSB a très opportunément fait état de menaces terroristes qui viseraient précisément ces rassemblements. Même sous ce format ultra-pacifique, le gouvernement russe n'est pas prêt à laisser s'exprimer le soutien à Navalny. Moscou, Léo Vidal-Giraud, France Inter.
Le tunnel sous la Manche pourrait bien être copié en mer d'Irlande. Un tunnel entre l'Irlande et l'Écosse. L'idée est née il y a quelques temps et les professionnels britanniques du rail ont transmis leur projet au gouvernement et à Boris Johnson. Londres, Richard Place.
Depuis le petit port de Stranraer au sud de l'Écosse jusqu'à celui de Larne en Irlande du Nord, juste au-dessus de Belfast, 40 km de tunnel par rectiligne parce qu'il faut éviter la fosse de Beaufort profonde de 200 à 300 mètres. Voilà le projet très sérieux, plus que l'idée d'un pont proposé par Boris Johnson il y a 3 ans et qui nécessiterait des appuis immenses soumis à des vents violents fréquents dans cette zone. Évidemment, c'est une idée coûteuse, plus de 20 milliards d'euros. Les autorités veulent raccourcir les temps de trajet à l'intérieur du royaume et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette proposition. Alors que le pays est déjà lancé dans la construction d'une ligne de chemin de fer qui devrait mettre Édimbourg à moins de 4 heures de Londres. Ces chantiers immenses, le Premier ministre britannique en est friand pour montrer l'envergure et les capacités du royaume, même sorti de l'Europe, aussi pour envoyer un signal à des citoyens qui considèrent souvent que tous les projets se concentrent en Angleterre et plus particulièrement autour de la capitale. Londres, Richard Place, France Inter.
Et on reste en Irlande avec l'événement en sport aujourd'hui et c'est le match Irlande-France lors de la deuxième journée du tournoi destination de rugby. Et c'est le moment d'y croire pour l'équipe de France pour en finir avec 10 ans sans victoire à Dublin dans un stade à huis clos. La jeune équipe de France misera sur sa vitesse et sa ferveur lors de ce choc pour effacer cette longue série de défaites en Irlande, Vincent Pellegrini.
En temps normal, l'Aviva Stadium est bouillonnant pour un match du tournoi. Rien de tout cela cet après-midi, le stade sera vide. Le talonneur Julien Marchand ne s'y habitue pas.
Le seul avantage qu'il peut y avoir, c'est surtout par rapport aux supporters, avec peut-être moins de pression. Mais franchement, je pense que pour tout le monde commence à en avoir un peu marre et on s'entend peut-être un peu mieux sur le terrain. Mais tout l'à côté et tout ce qui fait que le rugby est beau, ça commence à manquer. Ouais.
Actuel entraîneur des Avants du 15 de France, l'ancien talonneur international William Servat s'est souvent frotté aux Irlandais, même sans le soutien de leurs supporters. Ces derniers demeurent de très rudes adversaires, rappelle-t-il.
Le public n'étant pas là, on pourrait penser que, mais la réalité est bien autre. Il y a quand même une réalité, c'est que la phase de combat est dictée par les 30 joueurs qui sont sur le terrain. Les phases de combat seront très engagées et on connaît ces joueurs, on connaît leur caractère. On s'attend quand même malgré tout à une farouche opposition.
Les Bleus vont affronter une équipe irlandaise privée de son capitaine, buteur et maître à jouer Johnny Sexton, qui n'est pas remis d'une commotion cérébrale subie le week-end dernier face aux Gallois. Sexton, qui a souvent été le bourreau des Français depuis 2011, date du dernier succès tricolore à Dublin.
Vincent Pellegrini, et pour terminer ce journal, bonne fête à tous les amoureux. Et cette année, il va falloir se renouveler pour la Saint-Valentin. Restaurant fermé, couvre-feu. Les couples vont devoir changer leurs habitudes, même si, selon un sondage IFOP, 49% des Français seulement ont l'intention de célébrer la Saint-Valentin. Pour les autres, ceux qui fêtent la Saint-Valentin, la soirée se passera à la maison. Boris Loumagne.
La Saint-Valentin, ce sera donc à domicile cette année, dans une ambiance que l'on pourrait résumer ainsi.
On commandera des pizzas, toi, la télé et moi.
Voilà à quoi ressemblera, à quelques détails près, la soirée d'Angelina et Johnny.
Pas grand-chose, rester au chaud à la maison et puis voilà quoi. On est-ce qu'on sera ensemble et que voilà, on se posera devant une bonne série.
Je pense qu'on va regarder la série Viking là sur Netflix. On va commander Uber Eats.
Ouais, c'est ça.
Pas de livraison à domicile en revanche pour Eric et Jenny qui ont été prévoyants.
On se fait une petite soirée tous les deux. On s'est fait des courses ce matin. On a une petite bouteille de champagne, donc on va se faire plaisir. Juste au niveau du repas, ça sera tout. Donc voilà, on se fait ce petit plaisir. Là, c'est juste pour célébrer notre amour. Donc on le vit comme ça et c'est très bien.
Florian et Pamela, eux, ont bien tenté de trouver quelque chose d'original.
On a essayé de trouver à emporter dans des restaurants ou voilà un truc différent, mais au final, on n'a pas trouvé.
On va essentiellement se faire un petit apéro et se faire un bon petit repas à la maison, puisqu'on n'a pas le choix.
de faire plus.
Et oui, pas de cinéma, pas de restaurant. Et la promenade du dimanche en amoureux devra se terminer avant 18h. Couvre-feu oblige.
Une Saint-Valentin, Benabar, pizza, télé, toi et moi, comme on l'a entendu dans ce reportage de Boris Loman. Et en plus, dehors il fait froid, le temps pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Ça y est, le grand froid fait ses valises et c'est un air beaucoup plus doux qui va s'imposer à partir de demain. Le revers de la médaille, c'est le temps maussade qui va englober une grande moitié nord du pays ce lundi. Et en fin de nuit prochaine, il faudra se méfier, notamment près de la Belgique, des premières pluies qui, en arrivant sur des sols encore bien froids, risquent de donner des intermèdes glissants. Plus près en échéance, cet après-midi, c'est globalement un temps ensoleillé qui va s'imposer sur la plupart des régions, sauf entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, puis ce soir le long de la Manche, où de faibles pluies sont possibles, avec un vent sensible du sud-Bretagne au Cotentin. Autour de la Méditerranée, véhiculée par un vent de mer turbulent se prolongeant jusqu'au Lauragais, l'ambiance sera chargée et faiblement pluvieuse du golfe du Lion à la Provence. Sur le Pays Basque, les températures vont profiter du fameux effet de fun pour atteindre une vingtaine de degrés cet après-midi.
Jean-Michel Golinski de Météo France.